Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Ce roman est-il écrit sous l'égide de Saint-Hubert, patron des chasseurs, né à Toulouse, arrivé jusqu'à Maastricht, et qui eut la vision d'un magnifique cerf portant une croix dans ses bois. Si je vous donne ces détails, chers auditeurs, c'est que le roman de Luc Lang recèle bien des pistes, bien des questions, bien des révélations aussi, et bien des symboles, et qui se situe dans une nature magnifique et giboyeuse, arpentée par des chasseurs de toutes sortes, je dirais même de tout poil. Le titre de ce livre, La Tentation, il est édité chez Stock et Luc Lang est à mes côtés dans le studio de Radio Présence. Luc Lang, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez venu nous voir avec un roman magnifique intitulé Au commencement du septième jour. Et vous voilà avec La Tentation, formidable roman qui vient d'avoir le prix Médicis. Merci d'être là, malgré tous les aléas de votre venue, les grèves, les retards, etc. Bon, on vous attendait avec impatience. Alors, François, le personnage central appartient au milieu classique de la haute bourgeoisie lyonnaise, pas celle des soyeux, c'est celle des chirurgiens orthopédistes. Réussite matérielle, des biens, mais sans ostentation, de bon aloi, vie calme, à l'abri de tout. Un tableau tranquille d'un homme qui a réussi, en somme, qui a bien réussi.
Oui, oui, je voulais, vu l'enjeu du livre, si vous voulez, qui était quand même essayer de montrer cette sorte de passage d'un monde à un autre. C'est pas seulement un conflit générationnel qui se met en place, c'est bien entendu la fin d'un monde et le début d'un autre monde, façonné par de nouvelles techniques. Et on pourrait dire un nouveau pouvoir, en ce sens que ce n'est plus le même capitalisme, c'est plus un capitalisme industriel, mais c'est un capitalisme financier qui maille absolument toute la planète. Donc c'est une mutation très profonde qui est un choc civilisationnel, on peut dire ça comme ça.
Et à l'intervenir même des générations.
Voilà, et donc je voulais, c'est pour ça que j'ai pris quelqu'un, c'est ce que j'expliquais il n'y a pas longtemps dans une autre émission, c'est que je voulais montrer que même ce personnage qui est un grand bourgeois, donc qui fait partie, on pourrait dire, des puissants de l'ancien monde, va partir avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il va se trouver dépossédé de la même façon que les autres.
Mais alors, il y a justement ce changement de société, ce hiatus entre une génération, la nouvelle génération et l'ancienne. Et il y a également la démarche, l'évolution de cet homme aussi, à laquelle moi je me suis vraiment très attachée. Parce qu'il y a déjà une anomalie. Il vit dans deux mondes qui semblent totalement inconciliables. Celui où l'on soigne, où on répare, et puis celui où l'on donne la mort, où on dépèse, on décharme, je crois que c'est le mot que vous avez utilisé, qui est le bon. Grand talent dans les deux cas. Mais on sent que, dans le fond, il domine. Il domine d'une certaine manière, non ?
Oui, c'est vrai. Je voulais montrer qu'en fait, c'est un homme qui est du côté du corps, c'est-à-dire soit des corps humains qu'il répare, soit des corps des animaux qu'il tue. Mmh. Mais je voulais montrer qu'il était chaque fois dans des gestes décisifs, en fait. Mmh. Il est sur une ligne de crête où il commet des gestes décisifs qui sont dans le sens de la réparation, dans le sens de la destruction. Et ce qui est le point commun à chaque fois, c'est qu'il est très près des corps. Et il sait également dépecer un animal.
Oui, avec des gestes précis.
Des gestes extrêmement précis qui sont ces gestes de chirurgien. Oui. Et donc, il est un homme qui sait ce que c'est que le corps. Mmh. Et le début du livre s'ouvre sur le fait que, vieillissant, finalement, il n'arrive plus à être sur les deux versants, c'est-à-dire il n'arrive plus à tirer sur les animaux.
Alors, on est à un moment de bascule. Oui. Hein. Alors justement, il y a le cerf, autre personnage principal, un personnage important. Oui. Pour moi, c'est un symbole. J'allais vous dire qu'elle était le symbole pour moi, mais chacun va amener le lecteur s'approprie votre ouvrage.
Bien sûr, il le faut.
Voilà, oui, le vivant, c'est la vision d'une perfection. Moi, je dirais que c'est presque mystique.
Oui, bien sûr, parce que, alors, c'est sûr que si j'avais pris un sanglier plutôt qu'un cerf, on n'aurait pas eu le même effet, parce que on peut dire que d'un point de vue de la forme, le sanglier est moins favorisé que le cerf.
Voilà, comme quoi l'apparence.
Oui, comme quoi la forme. Hein. Mais c'est aussi... Pourquoi j'ai choisi le cerf? C'est parce que c'est un animal qui à la fois exprime, pour nos contrées européennes, ce que serait la sauvagerie, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la nature sauvage, et donc une espèce comme ça de primitivisme. Mais il traverse toute la culture européenne, que ce soit dans la mythologie grecque ou que ce soit dans la chrétienté. Mmh. Et donc c'est un animal à la fois chargé d'une puissance de la nature, mais en même temps chargé de la culture des humains. Et c'est pourquoi j'ai choisi le cerf, évidemment.
Oui. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? Il va le rater, celui qu'il cherchait, comme un Graal. Hein, il était à sa poursuite. Et pour la première fois... Alors, j'ai trouvé intéressant aussi que, quand on revoit l'évolution du roman, pour la première fois, il y a quelque chose qui se dérègle.
Oui.
C'est à partir de là.
Oui, c'est à partir de là. C'est-à-dire, en fait, il a de plus en plus de difficultés à tirer. Et il a de plus en plus de difficultés à tuer, en ce sens que il a le sentiment que ça se termine dans un déséquilibre terrible des forces, puisqu'il a une puissance de feu, évidemment, qui lui permet d'abattre n'importe quel animal à des très grandes distances. Et d'un seul coup, le paysage se vide. Et il a le sentiment que le paysage se vide parce que cette forme magnifique qui était là et qui animait le paysage, d'un seul coup, disparaît puisqu'elle devient une flaque de mort, dit-il.
Hein, et pour la première fois, il s'interroge sur son acte.
Il s'interroge sur son acte et il hésite. Et là, là, il hésite et il blesse l'animal parce qu'il a hésité, précisément. Et l'animal, à un moment donné, a eu une espèce d'intuition... peut-être dû à un reflet sur la lunette de tir, enfin. Et donc, il va le blesser. Et puis, je déflore peu le livre, puisque c'est vraiment les toutes premières pages du livre.
C'est surtout la fin dont on parlera pas.
Voilà. Et il va poursuivre le cerf blessé pour l'achever, puisque c'est son devoir de chasseur de l'achever. Et il va le débusquer au bord de la route qui traverse les montagnes. Et au moment où il va le tirer, il y a une voiture qui survient et le cerf en profite pour traverser et il ne peut pas tirer. Et dans cette voiture qui fut nambardée, manquant de renverser le cerf et de partir dans le fossé, dans cette voiture, il croit deviner sa fille. Et cette presque certitude que c'est sa fille dans la voiture produit en lui une espèce de sentiment d'insécurité et de fragilité à l'endroit de sa fille. Et cette fragilité à l'endroit de sa fille contamine l'animal et il se met à sentir la fragilité en l'animal. Et il se met aussi à sentir la fragilité en lui.
Il se sent très vulnérable.
Oui, parce que lui, c'est un monsieur vieillissant, puisque ses enfants sont adultes. Et rien que l'image des enfants adultes nous renvoie au fait que nous sommes en train de finir. Et donc, la fragilité, d'un seul coup, l'envahit totalement. Et finalement, va lui faire ce geste tout à fait... invraisemblable, c'est-à-dire au lieu d'achever l'animal, il va l'emmener dans son relais de chasse et comme c'est un bon chirurgien, il va le sauver.
Et à partir de là, je dirais que tout se grippe et il va se trouver, je dirais comme Job, devant une série d'épreuves.
Oui.
Finalement.
Oui.
Alors donc, la famille, on va s'interroger sur la famille, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, ce que l'on croit connaître, ce que l'on ne connaît pas.
Oui.
Il y a ça, des enfants beaux, intelligents, doués, et se découvrent finalement coupés de ses enfants et même de son épouse.
Oui.
Alors cette solitude, il la réalise. À un moment donné, on se pose des questions sur lui-même. Comment en est-il arrivé là?
Bien sûr. Ouais. Devant l'échec, forcément, on se pose des questions.
Oui.
Surtout que c'est, C'est-à-dire qu'en fait, ce qui lui semble insupportable, c'est l'impossibilité d'avoir transmis ce qu'il avait voulu transmettre à ses enfants.
Alors, c'est le problème de tous les parents.
C'est le problème de tous les parents. Et là, c'est une troisième génération de médecins. Donc, la certitude que les enfants vont eux-mêmes faire médecine. Et déjà, le fils, finalement, veut faire le droit financier, puis va devenir... Un cadre important,
un trader
dans une très grosse banque d'investissement à New York. Et puis sa fille qui, elle, fort heureusement aux yeux du père, a continué médecine, elle va être embarquée dans une passion amoureuse qui va la déporter totalement dans un monde qui est très sulfureux.
Oui.
Et donc là, il y a une espèce d'effroi du père...
De souffrance même.
De souffrance et d'effroi et d'incapacité de comprendre ce qui se passe. En même temps que sa femme, qui n'a pas supporté le départ du fils du domicile parental, et puis ensuite du pays, puisqu'il est parti à Londres commencer sa carrière de banquier pour finir ensuite à New York... dans un état de désespoir intense, va se réfugier dans
une sorte de folie mystique
en choisissant des lieux de recueillement et de silence, à savoir des abbayes, des carmels, où elle se retire le plus souvent possible.
Oui.
Et le père François, donc le personnage principal, va se trouver d'une certaine façon égaré devant ses enfants qu'il ne comprend plus et devant cette femme qu'il aime toujours éperdument, mais aussi devant cette femme qui est une mère, sans en dire plus, qui est extrêmement toxique pour ses enfants.
Oui, on ne sait pas trop qui elle est, finalement, on s'interroge. Et lui-même ne sait pas quelle attitude adopter avec elle.
Oui.
Et lui, cette fille qui chérit et protège, parce qu'elle a encore... Bon, elle a fait médecine. De son fils, il paraît vraiment très coupé. Son fils, il devient, je dirais peut-être bling-bling, mais enfin beaucoup d'argent, peu de scrupules. C'est la société actuelle, l'argent, les marques, tout ce qui est people.
Ouais.
Une épouse mannequin, très belle. Kunz en est le symbole.
Oui, absolument.
Là, je vous rejoins tout à fait. Voilà. Et elle est en danger. Alors, oui, il y a la scission dans cette famille. La scission dans la société, ils se sont rejetés, méprisés même, et ils ne savent plus où. Il y a une désillusion, une stupéfaction finalement.
Oui, il y a un effroi, une sidération.
Oui.
Et en fait, j'ai évidemment pensé à la tragédie grecque, puisque la tragédie grecque s'articule toujours le drame et le déchirement familial et la trahison familiale avec les conséquences politiques et sociales extrêmes, puisqu'il s'agit chaque fois de familles de gens puissants qui dans leur affrontement interne à la famille vont produire des conséquences très graves sur la société. Là, si vous voulez, ça se joue un peu de la même façon, sinon que c'est la manière dont les enfants vont incarner le nouveau monde, dans leur façon d'incarner le nouveau monde, qu'ils vont organiser d'une certaine façon le dépeçage du père et le dépeçage de son monde à lui.
De son monde à lui. Et comme vous disiez, il arrive à l'âge des bilans, la retraite se rapproche, le vieillissement et même la mort. Et ce qu'il découvre la terre, mais que laissera-t-il ? Le problème, c'est ça, c'est la transmission.
Oui, le problème, c'est la transmission. Si vous voulez, le combustible du livre, ce qui fait l'énergie de ce livre, pour moi, c'est d'abord une expérience personnelle, à savoir que mes quatre enfants sont devenus des adultes. Et c'est une expérience que de voir ces enfants devenir des adultes, en ce sens que quand ils sont enfants, on a l'impression que c'est une espèce de prolongement évident de soi-même, on est dans un rapport fusionnel. Enfin,
tout est simple.
Tout est d'une simplicité biblique. Et puis, d'un seul coup, il y a un seuil, il y a un passage. C'est un peu comme la chrysalide qui devient papillon. On est confronté à des adultes qui ont leur liberté, qui ont leur indétermination, qui inventent l'horizon de leur vie, que l'on voit beaucoup plus de dos que de face, et qui sont une pure altérité. Et on se dit, ah oui, mais c'était nos enfants, mais oui, mais en même temps, ces adultes-là, ils se mettent à constituer une part de mystère qui est propre à chaque adulte et qui nous déconcerte.
Oui.
Alors à la fois, on se réjouit de les voir devenir adultes et de les voir s'avancer vaillamment vers l'horizon qu'ils sont en train d'inventer pour eux-mêmes. Mais
et
en même temps...
c'est de rejeter ce qui... aussi.
Oui, et donc ils mettent les parents dans un état de... Ils immobilisent leurs parents dans l'image qu'ils en ont et qui correspond à celle de leur enfance. C'est-à-dire que leurs parents deviennent une image fixe dans leur enfance.
Ouais.
Et donc là, il y a un effet de retrait pour les parents. Il y a un effet de retrait très fort.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est extrêmement...
On se sent mis sur la touche.
On se sent mis sur la touche et on a beaucoup de mal à montrer à ses enfants qu'on a quand même, nous aussi, un avenir, même si c'est un avenir beaucoup plus court que... Donc il y a véritablement un sentiment de finir pour nous, parents.
Oui.
En tout cas, en tant que parents, on a le sentiment qu'on est en train de finir.
Alors justement... Je me suis posé la question, je me suis dit, mais dans le fond, est-ce qu'il y a un héritage à transmettre? J'ai pensé aux vieux meubles qui sont dédaignés maintenant.
Oui.
On n'en veut plus, les jeunes n'en veulent plus. Hein, c'est Ikea. Les métiers, les parents, ben, c'est les mêmes métiers. La plupart de métiers sont autres,
oui.
Totalement. Et les valeurs elles-mêmes changent, ce que vous montrez justement.
Oui.
Alors, j'ai pensé, c'est vraiment une peinture de la société actuelle. J'ai retrouvé une chanson de Léo Ferré qui disait déjà, c'était un temps déraisonnable et se terminait, ça se terminait par moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien.
Oui, oui, c'est exactement
parce
ça.
Parce qu'on a du mal à comprendre. Aussi.
Oui, oui, bien sûr. Et le père, qui était un homme puissant dans son monde, est en train de perdre pied. Ce que je voulais montrer, c'est que ce n'était pas une histoire de classe sociale. Même si la dimension politique et sociale du livre est très présente et très violente, mais que ce n'était pas une question de classe, mais que c'était une question de monde.
Oui.
Et c'est pour ça que même cet homme puissant,
oui,
qui a parfaitement réussi,
oui.
Sa fortune à l'échelle de celle de son fils devient dérisoire. Et quand bien même. Mais là, on a véritablement une mutation. Et cette mutation, c'est pas juste un conflit générationnel non plus. C'est vraiment une mutation de monde.
Oui.
Et pourquoi c'est une telle mutation? C'est parce qu'il y a une mutation technique,
oui,
il y a une mutation technologique, oui, qui est en train de refaçonner totalement les rapports humains.
Et un capitalisme...
Oui, alors il y a ce capitalisme financier, évidemment, qui n'est pas le capitalisme industriel, mais il y a surtout le fait que ce capitalisme financier a des moyens techniques nouveaux, qui sont des moyens techniques qui sont en train de façonner notre quotidien à chaque heure du jour et qui est en train de totalement reconfigurer notre rapport au monde, notre rapport aux autres humains, qui est en train de faire un monde qui est de moins en moins animé par les humains, puisque c'est un monde de plus en plus animé par des machines, par les applications.
Qui va leur échapper aussi, non ?
Oui, qui va échapper à tout le monde. C'est pour ça que c'est un monde fou. C'est un monde totalement irrationnel où on est en train d'inventer les machines qui vont vider le monde de sa présence humaine.
Mmh.
C'est-à-dire que la présence humaine est de plus en plus écartée au profit d'applications et de machines qui vont prendre tellement notre place que nous, je ne sais plus...
L'intelligence artificielle, les voitures qui vont se conduire toutes seules.
Voilà, et d'ailleurs, c'est ce que dit son fils à François.
Oui.
Il lui dit, papa, tes mains sont obsolètes, bientôt tes mains de chirurgien ne serviront plus, puisque ça sera la robotique et l'intelligence artificielle qui va opérer les patients.
Alors, il y a évidemment beaucoup de questions qui sont posées sur la famille. La connaît-on ? Ça peut être un lieu de souffrance, de chagrin, de déception. Il y a le rôle de l'éducation, de l'exemple, imparfait souvent si on en croit les enfants. Le rôle de la société, hein, parce qu'il y a l'éducation, ce que l'on donne, mais ce que fait la société. Et les valeurs qui changent. Alors, il y a autre chose que je trouve, mais il y a beaucoup d'autres choses dans votre ouvrage, et on n'en aura pas fini. En contrepoint, il y a la présence immuable de la nature. Pour l'instant, encore immuable. Il y a de très belles pages sur la montagne, la forêt, l'automne, la neige, les animaux également, bien sûr. Qu'est-ce que ça représente pour vous, là? Un recours, un refuge, un repère? Qu'est-ce que c'est?
C'est la corporealité du monde, c'est le corps du monde. Et c'est la découverte aussi pour nous aujourd'hui, alors que ce monde est très menacé, que le corps de la Terre, avec sa flore et sa faune, en fait, c'est le prolongement de nous-mêmes. Et que si l'on détruit ça, on a pensé pendant très longtemps que ça nous était dédié et que c'était à notre service.
Et on s'en est
tellement, on s'en est tellement servi qu'on l'a totalement, on est en train de totalement le détruire. Et là, il y a 1 milliard d'animaux qui sont détruits dans les incendies en Australie. C'est absolument une catastrophe écologique gigantesque. Eh bien, d'un seul coup, la découverte que cette nature, c'est le prolongement de notre propre corps et que si on la détruit, c'est nous-mêmes que nous allons détruire. C'est cet adossement à cette nature en voie de disparition. Et c'est cet adossement à cette nature que j'ai voulu construire pour ce personnage de François, qui d'ailleurs ne s'appelle pas François pour rien. Il y a évidemment Hubert, mais j'ai pensé aussi à saint François d'Assise.
Tout à fait.
Et de son rapport aux animaux et son rapport au dépouillement, c'est-à-dire le choix du dépouillement et le choix de construire et d'inventer un rapport subtil et charitable aux animaux. Et c'est là que se joue, si vous voulez, à la fois l'arbitrage de notre survie ou de notre disparition. Et c'est là aussi que se joue pour François le recours à ce qui est en train d'advenir.
Oui, j'aurais aimé qu'on ait le temps de lire un extrait, parce que vraiment, il y a de très belles pages qu'on a envie de lire à haute voix. Mais continuons, parce qu'il y a soudain un enchaînement d'événements inquiétants. Tout devient danger. La mort est là. Et il y a un rôle renversé, parce que François devient celui qui est traqué. Il y a une poursuite, il a peur. Ça devient un thriller incroyable et inattendu. Ouais. Et ça va crescendo en accéléré. D'ailleurs, à un moment donné, même, il trouve que ses enfants vont trop vite.
Oui. Hein? Mais j'ai voulu écrire un thriller et un western.
Il y a un changement tout d'un coup.
Oui. Alors, bon, c'est amorcé progressivement. Il y a la présence de ce scooter qui passe avec ces deux personnages casqués. Il y a cette voiture qui passe. Il est sûr qu'il y a sa fille dedans. Il y a la menace qui monte. Et si vous voulez, moi, j'aime beaucoup exprimer les choses et à travers des histoires extrêmement simples et physiques. C'est pour ça que j'aime tant le roman américain. C'est parce que il n'y a pas de théorisation, il n'y a pas de psychologie. Et on n'est que dans l'action. Et en fait, c'est dans l'action. Mais c'est vrai aussi que dans la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire, on est ce qu'on fait.
Bien sûr.
Et on n'est pas ce qu'on dit. On est ce qu'on fait. Et c'est à travers des situations extrêmement physiques et des situations extrêmement de tension et de conflits, comme d'ailleurs de retrouvailles ou de fusions, que les choses adviennent réellement. Et là, c'est un roman d'action complètement de A à Z, et je suis tout le temps en train de frôler des genres que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le genre du policier, le genre du thriller, le genre du western.
Tout à fait. Voilà. Pour l'heure, nous allons écouter, là c'est tout à fait calme, il s'agit de Stabat Mater de Pergolèse, interprété par l'ensemble Les Passions, dirigé par Jean-Marc Andrieux. Et c'est ce qu'écoute François,
oui.
Entre autres, il aime le jazz aussi, oui. Je pense. Et ce qui est drôle, c'est qu'il ne comprend pas que sa femme n'aime pas, elle qui va de couvent en couvent,
oui.
Et lui qui serait un mécréant, mais je ne crois pas d'ailleurs, aime écouter cette musique.
Oui.
Thank you.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous reprenons notre entretien avec Luc Lang, venu nous parler de son roman, de ce nouveau roman, Tout est si beau que les précédents. J'en rajoute pas, là, La Tentation, c'est un formidable roman qui vient d'avoir le prix Médicis, un prix amplement mérité. Et il s'agit d'une folle aventure, mais plus que ça, je dirais que c'est une sorte de quête du Graal en définitive. Enfin, on peut trouver des tas d'explications. Chacun, on l'a dit tout à l'heure, chaque lecteur va y trouver ce qu'il a envie d'y trouver, mais quand même, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de symboles également. Et là, donc, cet homme qui a été et qui se trouve au sein d'événements qu'il n'a pas voulu, qu'il ne peut pas maîtriser. Ce qui est terrible aussi, c'est que lui qui a quand même, en tant que chirurgien, en tant que chasseur même, a le pouvoir, une forme de pouvoir, là, il ne l'a plus.
Oui. Oui, et je crois qu'au départ, il ne l'a plus parce qu'il choisit de ne plus l'avoir. C'est-à-dire que quand il se rend compte que la fragilité envahit le monde, et il envahit son monde, et cette fragilité envahit le corps des animaux comme le corps des humains, à travers cette vision de sa fille et à travers ce cerf blessé qu'il décide finalement de réparer, il décide de ne plus être que du côté de la réparation. Il décide de ne plus être que du côté des gestes qui réparent et qui sont ces gestes de chirurgien. Et donc, au départ, c'est un choix.
Oui.
Mais de ce choix de renoncer à cette puissance de tuer, eh bien, à partir de là, il va progressivement se retrouver être une proie et être une proie pour ses propres enfants. Mmh. Et c'est là que c'est extrêmement douloureux et c'est extrêmement cruel. C'est-à-dire que ces enfants vont tellement bien incarner le monde qui vient qu'ils vont devenir les acteurs de ce monde qui vient, jusqu'au point de le trahir et d'organiser son propre dépeçage.
Alors on voit son désarroi. Lui qui ne connaissait pas cette violence, on ne va pas donner les détails, mais oui, on entre dans la violence, la vraie, la dure.
Oui.
On sent son angoisse pour sa fille qui est en danger et qu'il aime. Son affolement, tout va vite, trop vite. Et je me suis posé la question, mais peut-être que vous ne voudrez pas y répondre, où se situe la tentation? C'est le titre de votre roman.
Oui. Il y a plusieurs tentations dans le livre. La tentation fondamentale, si vous voulez, qui infuse tout le livre, c'est la tentation du désespoir. Hein, c'est Bernanos. Pourquoi la tentation du désespoir? Parce que, d'ailleurs, il y a une citation de Peggy
en exergue. La petite fille Espérance.
Oui, voilà, c'est ça. Hein, c'est-à-dire le porche de la première vertu, c'est l'espoir. Et si nous n'avons plus l'espoir en nous, nous ne pouvons plus vivre.
Il n'y a plus de vie.
Il n'y a plus de vie possible. Et là, François, effectivement, devant ce qui arrive, à la tentation du désespoir, c'est-à-dire la tentation d'en finir.
D'abandonner.
La tentation de renoncer, la tentation d'abandonner, la tentation d'en finir et de se laisser finir. De se laisser finir et de se laisser finalement détruire par ses propres enfants.
Oui. Mais, laisser les enfants se perdre aussi.
Oui, de laisser les enfants se perdre. Et puis, il a la tentation aussi de se battre, c'est-à-dire de résister. Ouais. Et il a quand même tellement la tentation de résister qu'il va se battre.
Oui, alors voilà, parce qu'en finale, et Dieu sait que la seconde partie de ce roman est rude, et en finale, je dirais moi que pour moi, le bilan est positif.
Oui.
D'abord, il a découvert beaucoup de choses, cet homme. Il a découvert l'humilité, il me semble.
Oui, je pense, oui. Il a découvert l'humilité, il a découvert la fragilité, il a découvert en lui l'impossibilité de tuer.
Oui, il a appris à s'oublier.
Oui, il a appris à se retirer. Et puis en même temps, dans cette tentation de s'abandonner à la fureur du monde et du coup de s'abandonner à sa propre destruction, il a aussi la tentation de défendre ce en quoi il croit.
Ouais.
Et de défendre d'une certaine façon aussi la possibilité d'envisager de sauver ses enfants, en tout cas sa fille.
Oui, et puis il veut être bienveillant, parce que c'est vrai que les critiques peuvent être dures, y compris à l'égard de ses enfants. Il veut rester un refuge et non pas un repoussoir, dites-vous.
Oui.
C'est important, ça
oui.
aussi.
C'est-à-dire que, et c'est pour ça que la religion rôde beaucoup dans ce livre, c'est parce que je voulais montrer que, d'une part, il est entendu qu'on peut dire que le capitalisme a gagné, c'est-à-dire que il est aujourd'hui planétaire et universel, si l'on peut dire, comme modèle économique dans toute
sa
sauvagerie.
Vous savez, on disait que l'URSS resterait éternellement. Hein.
Oui, mais en fait, pas du tout.
Ben voilà, donc on peut penser que...
C'est un capitalisme encore plus sauvage que chez nous. Et donc, quel est notre cours aujourd'hui que nous n'avons plus d'alternative ni idéologique ni politique face à ce modèle qui est devenu universel? Eh bien, les recours que nous avons, c'est dans une morale et surtout dans des sentiments qui ont été inventés par les religions, à savoir le sentiment de la loi, le sentiment de la charité, le sentiment de la passion et de la compassion.
Mmh.
Et donc, ces sentiments-là, c'est des sentiments qui nous permettent aujourd'hui de nous opposer à cette barbarie.
Mmh.
Mais on n'a plus que ça pour s'opposer à cette barbarie. Et ces sentiments-là sont chevillés en nous,
ouais.
parce que les religions ont inventé ces sentiments-là pour qu'on vive en société, finalement. Hein. C'est des sentiments, cette manière de nous avoir façonné ces sentiments en nous, ça nous a permis de vivre en société et de vivre tant que faire se peut en paix. Et donc, j'ai voulu que ces sentiments-là traversent tout le temps le
ouais.
livre. Alors, à travers, évidemment, la folie mystique de la mère, mais aussi à travers la manière dont le père, qui est même pas athée, puisque la question pour lui de la croyance ou pas ne se pose même pas, mais qui, par le biais de l'esthétique, à savoir son goût pour la peinture, la peinture italienne, la peinture religieuse, ou son goût pour la musique sacrée. D'ailleurs, il se pose la question de savoir si on aurait pu créer un art aussi beau si l'on n'avait pas eu la foi. Et il pense que la foi, finalement, est un moteur essentiel à la puissance de cette création-là, que ce soit en musique ou en peinture ou en sculpture ou en architecture. Et donc, il est quand même empreint de ses valeurs et il est empreint de ses sentiments, quand bien même il n'est pas du tout religieux.
Voilà, vous avez devancé ma question, parce qu'il a appris l'espérance, on en a parlé, cette unique vertu vitale.
Oui.
La charité, il la connaît, puisque on le voit opérer ce cerf, on le voit opérer son chien, opérer le fils de son ami taxidermiste,
oui.
et opérer celui dont il souhaiterait la mort.
Oui.
Et ça, c'est fort.
Oui.
Donc, la charité, il connaît. Je me dis, il va découvrir la foi.
Ouais.
Alors, parlons aussi du style, parce que effectivement, y a cette manière de parler, de décrire la nature, de très belles, de très beaux passages aussi. Il y a la précision avec laquelle vous décrivez ce que fait cet homme, une précision clinique, je dirais. On s'y croit, on voit ce geste sûr, ce geste d'un homme qui est, comme vous dites, qui est charnel, qui est dominateur, mais justement, la suite montrera qu'il est capable d'autre chose que
oui.
d'être, que de dominer.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et puis, il y a la construction étonnante de votre roman. Alors, c'est un peu déroutant, mais en même temps très intéressant. Le récit ne suit pas un ordre chronologique. Bon, je dis pour nos auditeurs,
oui.
On revient en arrière. Dans un premier temps, on se dit, mais je me suis trompée de page, mais non. Mais il y a un léger glissement, comme pour comprendre, enfin, comme François, dans une situation tendue et inédite, on revient sur les faits, on se dit, bon, voyons, qu'est-ce qui se passe? On lit quelque chose qu'on a déjà lu, mais pas exactement, non,
oui,
il me semble.
Exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Mais vous savez, en fait, on est très circulaire, parce que quand on se rappelle de souvenirs anciens, oui. qui remonte à la surface parce que le présent les convoque. Mmh. Mais comme c'est jamais le même présent qui les convoque, c'est pas tout à fait le même souvenir qui remonte à la surface. Il n'est pas coloré de la même façon. Et puis quand on se remémore un souvenir d'un moment partagé entre proches, on voit bien qu'on n'en a pas retenu les mêmes choses.
Mmh. C'est vrai.
Et que chaque version de chacun, finalement, est un morceau de vérité de ce moment passé ensemble. Et que finalement, quand on emboîte tous ces souvenirs que chacun a en lui, ben on arrive à une espèce de vérité du moment. Mais chacun a la vérité circule entre tous les êtres qui ont partagé le moment en question. Et donc, j'ai voulu mimer, si vous voulez, cette circularité en montrant que quand
François
on reprend...
François a du mal à progresser, donc il tourne un peu.
Voilà, on tourne en rond, mais on tourne en rond, mais on ne tourne pas en rond, en fait, parce qu'on revient...
Oui.
au même endroit, mais pas tout à fait de la même façon. Et dans la mémoire du lecteur se constitue un emboîtement de différents aspects de la même scène qui transforme le lecteur en une sorte d'enquêteur. Et il mène l'enquête, le lecteur, la lectrice mène l'enquête, c'est-à-dire elle emboîte, la lecture permet d'emboîter les différents aspects et on arrive à une espèce de constitution de la réalité complète de la scène qui nous permettent de reconstituer le puzzle, en fait.
Absolument.
Et c'est pour ça aussi que c'est une espèce de roman policier.
Oui, et puis bon, il faut que le lecteur participe également.
Oui, ça c'est très important pour moi, c'est que le lecteur soit acteur.
Acteur,
il faut que le lecteur construise le sens en même temps qu'il lit le livre. Et il faut que, je crois que ce qui permet à la littérature d'être prégnante dans l'expérience de la lecture, c'est que le sens se délivre dans la lecture et non pas dans le livre. Et c'est le lecteur, la lectrice qui construisent le sens et non pas le livre. Il faut que le livre, il induise. Il faut que la littérature, ça soit une induction, si vous voulez. Il ne faut pas que ça soit... Si la littérature se met à vous donner le mode d'emploi de la compréhension de l'histoire... Eh bien, tout est fait, tout est déjà fait.
Bien sûr.
Et donc, il faut que la lectrice ou le lecteur, comme dans la vie, vive une expérience. Et à travers l'expérience que l'on vit, précisément, on dégage du sens. Ouais.
Alors, moi, je dirais pour nos auditeurs que c'est le portrait d'un homme qui, gâté par sa naissance, par la vie, engoncé dans un rôle confortable de bourgeois aisé, va se révéler dans toute son humanité alors qu'il est plongé dans un drame inattendu. Oui, il répare, il sauve, le cerf, il sauve l'amant voyou de sa fille qui souhaiterait voir mort. Il répare, il tente de réparer et c'est en cela que je trouve profondément humain. Il n'abandonne pas sa famille, il va jusqu'au bout. En fait, il sait aimer.
Oui, sans doute qu'il sait aimer. On n'est pas sûr qu'il ait su tout le temps aimer.
Ouais.
Parce qu'il y a par moments des retours de réalité qui sont énoncés notamment par sa fille. Mais là, il est dans une situation, comme vous disiez tout à l'heure, d'obstacles et de défis, d'une certaine manière, à un âge où la fragilité monte en lui.
Plus vulnérable, mais il se révèle.
Et du coup, cette vulnérabilité lui permet sans doute de se révéler à lui-même des qualités humaines.
Luc Lang, un grand, grand merci.
Merci à vous.
Je rappelle à nos deux éditeurs qu'il s'agit de La Tentation, édité chez Stock, qui vient d'avoir le prix Renaudot.
Médicis.
Oh là là, je me mélange les pédales. Désolé. C'est un beau prix. Le prix Médicis. Et j'encourage nos auditeurs à le lire. C'est un très, très beau livre. Merci.
Merci à vous.